Voilà, nous allons lire aujourd'hui deuxième livre des Rois au chapitre 20, les versets 1 à 6.
Dans 2 Rois 20, versets 1 à 6. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir et le prophète Isaïe se rendit à son chevet. Il lui dit, « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. « De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Ézéchias versa d'abondantes larmes. Isaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant « Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui « Voici ce que l'Éternel déclare, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je te guérirai. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années. » Amen.
Amen. Merci Robert. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. Alors comme vous vous en doutez, le thème de ce jour sera la prière, mais pas seulement. Pas seulement parce que le thème de ce jour sera aussi et surtout la détresse et les larmes qui accompagnent celle-ci. Mais nous ne manquerons pas non plus de parler de la réponse de Dieu « Je te guérirai ». Dans le passage que nous venons de lire, Ézéchias pleure et il verse d'abondantes larmes sur sa mort prochaine. Dieu connaît nos malheurs. Il connaît nos larmes bien plus, savez-vous, que nos larmes sont inscrites dans son livre. Au psaume 56, verset 9, version du Semeur, nous pouvons lire ceci. « Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. » Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques questions. Des questions du genre, le chrétien a-t-il le droit d'être dans la détresse? Pourquoi pleure-t-on? Quelles sont les raisons qui déclenchent nos larmes? Sommes-nous tous égaux face à la peine? Les larmes ne sont-elles pas réservées uniquement aux enfants? Voilà le genre des questions que je me suis posées. Alors, je n'aurai pas le temps nécessaire de vous parler des pleurs de repentance. Et pourtant, les larmes de repentance à elles seules suffiraient probablement pour un message. Sachez que les larmes ne sont pas réservées uniquement à la peine, à la douleur. Nous avons tous connu un jour ou l'autre, à tout le moins je l'espère, nous avons connu des larmes de joie. Aujourd'hui, je n'aborderai pas non plus les larmes de crocodile. C'est bien connu, les enfants sont experts en la matière. Plus sérieusement, posons-nous la question, le chrétien peut-il connaître le bonheur malgré les malheurs qui l'atteignent? Notre vie est si souvent accompagnée de pleurs, de souffrances, de solitude, de maladies, de déceptions, de ruptures, parfois même de persécutions. Et pourtant, Dieu s'approche de toi, il te rejoint dans tes souffrances, dans ta douleur, et il te dit « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. » La première fois dont il est fait mention de larmes dans la Bible, ce sont les larmes d'une mère, ce sont les larmes d'Agar. Mais qui est Agar? Agar est la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Mais elle est aussi la maman d'Ismaël, le fils premier-né d'Abraham. Mais pourquoi donc pleure-t-elle? C'est suite à la jalousie de Sarah qu'Abraham chasse Agar dans le désert. Et nous pouvons lire ce récit dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, versets 14 à 21. Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, en les plaçant sur son épaule, et il lui donna aussi l'enfant, et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle resta assise face à lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et vécut dans le désert, où il devint un habile chasseur à l'arc. À maintes reprises, la Bible évoque les pleurs d'une mère comme Agar. Mais elle évoque aussi les pleurs d'un père, comme par exemple les pleurs de Jacob. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, versets 33 à 35, nous pouvons lire ceci. Jacob reconnut la tunique et dit « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Après ce bref aperçu des pleurs d'un père tel Jacob, revenons maintenant à Agar. C'est lorsque nous sommes touchés dans nos liens familiaux que les larmes, que la peine surviennent le plus rapidement. Lorsque le malheur touche notre enfant, notre conjoint, nos parents, nous sommes souvent désappointés. Voir son enfant mourir, quoi de plus inconcevable? Alors Agar s'éloigne de 100 mètres, mais ses yeux de mère ne peuvent se détacher de son fils. Alors elle lui fait face et elle pleure. Mais Dieu reste proche, tout proche, et il entend et il répond aux attentes. Il répond aux cris de ceux qui souffrent, de ceux qui attendent la délivrance par les mains de l'Éternel. Malgré sa souffrance, malgré ses pleurs et ses gémissements, Agar oublie l'essentiel. Elle oublie Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, il n'est nulle part fait mention que Agar prie. D'ailleurs, dans notre récit, Dieu n'entend pas la voix d'Agar, puisque celle-ci ne prie pas. Dieu entend la voix, il entend la prière de l'enfant. Notre Dieu est un Dieu de compassion, il est attentif. Il est attentif à chacune de ses créatures et c'est une réalité. Et pour nous chrétiens, c'est un encouragement. Puisque Dieu nous entend, c'est un encouragement à la prière. Posons-nous la question, comment réagissons-nous lorsque nous sommes dans la détresse? Faisons-nous comme Agar, c'est-à-dire que nous nous lamentons sur notre triste sort et nous gémissons de toutes nos forces sans avoir recours à la prière, sans demander l'aide de Dieu? Si Agar avait vécu à notre époque, certainement elle aurait pris son GSM et elle aurait ameuté tout le monde en disant « Ah, si tu savais ce qui vient de m'arriver, Abraham vient de me chasser. Oh là 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 là, et c'est de la faute à Sarah. Oh, je n'ai vraiment pas de chance, non, il ne me manquait plus que cela. » Dans la plupart des cas, c'est ce que nous faisons. En tout cas, moi je peux vous dire que ça m'arrive plus qu'à mon tour. C'est ce que je fais. Et nous faisons cela parce que nous voulons nous en sortir nous-mêmes, par nos propres moyens, par nos propres forces. Nous n'avons pas l'intention de déranger Dieu pour si peu. Et la Bible donne des exemples d'hommes et de femmes qui ont voulu s'en sortir tout seuls, par leurs propres moyens, par leurs propres forces, sans vouloir déranger Dieu pour si peu, alors que notre Père Céleste attendait que nous nous adressions à lui. En agissant de la sorte, nous ratons l'essentiel. Nous ratons un rendez-vous important avec notre Dieu, le rendez-vous d'un fils avec son Père, un Père débonnaire, riche en bonté. Et nous pouvons voir la déception de Dieu. Nous pouvons voir la déception de Dieu dans le livre d'Osée, au chapitre 7, verset 14. Dieu parle et dit, « Quand ils gémissent sur leur couche, ils ne crient pas vers moi du fond du cœur. Et quand ils se font des incisions pour du blé et du vin, de moi, ils se détournent. » Dieu est déçu. Il est déçu par notre attitude. Et il nous pose cette question, pourquoi ? Pourquoi gémis-tu sur ta couche au lieu de crier vers moi ? Pourquoi n'utilises-tu pas le moyen que tu connais, la prière ? Voilà comment les contemporains d'Osée agissaient. De la même manière, Agar compte sur elle-même, sur ses propres forces, limitées certes, mais sur ses propres forces quand même. Sommes-nous comme cela? Si c'est le cas, eh bien nous devons changer de comportement. Je dois changer de comportement tout de suite, maintenant. Car la parole de Dieu nous interpelle et elle nous enseigne. Et elle nous dit, reviens mon fils, reviens ma fille. Je suis un père compatissant. Je suis lent à la colère et riche en bonté. La solution à nos problèmes se trouve très souvent à notre portée par le moyen de la prière. Et nous n'en profitons pas. Pire encore, Dieu nous dit, de moi tu te détournes. Comme nous venons de le voir, Dieu n'est jamais bien loin et il nous dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. Alors pourquoi ? Pourquoi ne nous tournons-nous pas vers notre Dieu ? Pourquoi ne suivons-nous pas dans un élan de foi l'exemple de Manassé ? Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, versets 12 et 13, nous pouvons lire ceci. « Lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il le pria et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi, Manassé comprit que l'Éternel seul est Dieu. » Qui est Manassé ? Eh bien, Manassé est un roi inique. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a réinstallé le culte des idoles. Pire, il a mis une idole dans le temple de Jérusalem. Et malgré tout cela, Dieu est bon envers lui. Manassé se repent, il s'humilie, il prie et l'Éternel l'exauce. Et c'est suite à cette réponse de Dieu que Manassé comprend que l'Éternel seul est Dieu. Oui, l'Éternel seul est Dieu. Et il répond à la prière. Même à celle d'un roi unique. Nous connaissons tous ce commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Est-ce cela, aimer Dieu, que de faire tout seul, par nos propres moyens, par nos propres forces, sans utiliser le moyen que nous connaissons ? Un moyen de communication extraordinaire mis à notre disposition par Dieu. Je le répète, la prière. Avons-nous peur d'importuner Dieu ? N'est-ce pourtant pas ce qu'il nous demande ? Que préférons-nous entendre ? De moi, tu te détournes ? Ou bien préférons-nous entendre, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je te guérirai. Méditons sur l'amour de Dieu, nous l'avons si souvent fui, nous l'avons trop souvent déçu. Et pourtant, dès que nous revenons à lui, il ouvre ses bras de père. Si dans la détresse, nous crions à Dieu, nous connaîtrons la délivrance, c'est du moins ce que le psalmiste a connu. Au psaume 34, versets 6 à 11, nous pouvons lire ce témoignage. Qui regarde vers l'Éternel est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim. Mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Chers amis, chers frères et sœurs, lorsque je lis des textes comme celui-là, mon cœur est dans la joie et je ne peux que m'écrier « Alléluia ! Alléluia, gloire à Dieu !» Maintenant, c'est vrai, nous n'avons pas toujours la réponse que nous désirons. Nous n'avons pas toujours la réponse que nous attendons. Il n'en reste pas moins vrai que Dieu toujours nous apporte son soutien, son réconfort. Les pleurs, la peine sont là, c'est vrai, mais Dieu nous apporte son réconfort. Nous ne sommes plus seuls. Dieu essuie nos larmes. Il tient le compte de chacune d'elles. Il les dépose dans son outre. Elles sont inscrites dans son livre. Entrons dans le repos, dans la paix de Dieu maintenant. Disons-lui notre détresse et il nous écoutera. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. Avez-vous remarqué comme il est difficile à notre époque de trouver une oreille attentive? Dès que vous ouvrez la bouche, votre auditeur détourne déjà la conversation sur un sujet évidemment bien plus intéressant que le vôtre. Surtout si vous parlez de vos malheurs. Pour nous, heureusement, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit des oreilles de Dieu. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, verset 7, voici ce que dit David. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai appelé mon Dieu. Et de son temple, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Alors je parle de larmes, je parle de détresse, mais savons-nous réellement ce qu'est la détresse? L'avons-nous connue? L'avons-nous approchée? Peut-être côtoyons-nous des personnes qui vivent dans la détresse et nous ne nous en apercevons même pas. Un musicien de jazz qui a connu le succès a dit ceci, « Je compense ma détresse d'exister par une immense joie de vivre. » En d'autres mots, je suis tellement gêné de ma détresse que je dissimule mes sentiments derrière un masque de joie. Pour nous, chrétiens, une autre solution s'offre à nous et elle se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 34, verset 7. Cet affligé a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a délivré de toutes ses détresses. Toujours, je dis bien toujours, notre Dieu est à l'écoute. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il nous entend, c'est-à-dire qu'il nous comprend. Et dans la plupart des cas, le résultat ne se fait pas attendre. Il nous sauve de toutes nos détresses. Alors, soyons bien clairs. Il n'est pas dit que Dieu a sauvé le roi David de toutes ses épreuves. Non, ce n'est pas ce qu'il est écrit. Des épreuves, le psalmiste en a connues. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est à cause d'elles qu'il a crié à l'Éternel. Il n'est pas dit non plus que Dieu l'a sauvé de toutes ses maladies, non plus de la mort de ses proches. Il est dit, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. Seigneur, c'est notre prière, délivre-nous de toutes nos détresses. Nous sommes si faibles, si petits, nous sommes au plus profond du puits, sans force pour en sortir. Seigneur, c'est notre prière, délivre-nous de toutes nos détresses. Ouvrons-nous à celui qui connaît tout. Parfois, nous ne trouvons pas les mots, qu'il faut prononcer pour nous adresser à l'Éternel. Nous voudrions tant le prier, mais rien ne vient. Dans ces moments de désespoir, ouvrons notre Bible et lisons les psaumes. Faisons nôtres ces versets que nous venons de lire. Ils sont écrits avec une telle justesse. Ils sont écrits par des croyants qui, dans leur détresse, ont crié et se sont tournés vers l'Éternel, notre Dieu. Ils ont invoqué celui qui délivre notre âme de la mort, nos yeux des larmes et nos pieds de la chute. Psaume 116, verset 8. Le Seigneur n'est pas absent des grandes détresses. Bien au contraire, Dieu seul peut nous en faire sortir et nous consoler. Parfois, Dieu ne nous donne pas de réponse tout de suite. Et il faut patienter un peu. David a prié l'Éternel et la réponse s'est fait attendre. Et nous lisons cela dans le livre des psaumes, au chapitre 40, versets 1 à 3. « J'ai attendu patiemment l'Éternel. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors du bourbier fangeux, et il a mis mes pieds sur un roc. » Il a établi mes pas. Oui, c'est vrai, nous avons attendu patiemment. Nous avons attendu patiemment une réponse. Et peut-être, je dis bien peut-être, l'attendons-nous encore. Mais Dieu ne nous a pas oubliés pour autant. Il s'est penché vers toi, il a entendu ton cri et il te dit, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes, je te guérirai. Encore un mot sur la détresse. Croyez-moi, si le roi David a crié à l'Éternel alors qu'il se trouve, nous dit-il, au fond de la fosse de la destruction, alors qu'il se trouve dans le bourbier fangeux, cela signifie bien qu'il se trouve dans la détresse la plus profonde. Alors, certaines personnes diront qu'en tant que chrétiens, nous ne devrions jamais nous trouver dans la détresse. Si vous trouvez ce verset quelque part dans la Bible, venez me trouver, j'aimerais bien connaître la référence. Savez-vous combien de fois il est fait mention dans la Bible, combien de fois il est fait mention du mot détresse? Nous trouvons le mot détresse plus de 100 fois. Et ces 100 détresses sont vécues, dans la plupart des cas, par des hommes de Dieu, des rois, des prophètes, des croyants de l'Ancienne Alliance, mais aussi des croyants de la Nouvelle Alliance. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, mais je voudrais dire à ces chrétiens qui pensent qu'un enfant de Dieu ne devrait pas être dans la détresse. Eh bien, je voudrais lui dire ceci, mon frère, ma sœur, tu te trompes. Et je vais illustrer ce que je viens de dire par la lecture d'un témoignage. Le témoignage d'un homme. Un homme hors du commun. Un homme fort, un homme tenace. Un homme dont la foi était à toute épreuve. Et nous trouvons ce témoignage dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, versets 13 et 14. Et ce témoignage commence par un verset que nous connaissons tous par cœur. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais est-ce que vous connaissez la suite de ce verset? Alors écoutez bien. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Alors voilà, l'apôtre Paul a connu la détresse et certainement il en a fait part au Seigneur. Ses supplications, ses prières sont montées jusqu'au trône de la grâce. Paul est dans la détresse et il prie avec persévérance. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui est la marque de tout chrétien, vient à son aide dans la prière, pour supplier l'Éternel de le sortir de sa détresse. Dans le verset que nous venons de lire, Paul est reconnaissant. Il est reconnaissant envers tous ceux qui ont pris part à sa détresse. Et il leur dit, « Cependant, vous avez bien fait. Merci pour vos prières. Merci parce que vous m'avez entouré de la tendresse de Dieu. » Lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur est dans la détresse, nous avons une responsabilité. Que dis-je, une responsabilité? Bien plus que cela. Nous avons un privilège, celui d'intercéder et pourquoi pas celui de venir en aide à celui qui se trouve dans la détresse. Cependant, vous avez bien fait, nous dit l'apôtre Paul, vous avez bien fait. Voilà l'exemple que nous devons suivre. Alors, nous venons de voir les larmes face à l'épreuve. Nous allons voir maintenant les larmes face à la mort. J'aurais bien voulu éviter ce sujet, la mort. Mais tout comme les taxes, la mort nous rattrape. Alors pourquoi pensez-vous que j'aurais bien voulu éviter ce sujet ? Bien parce que la mort est trop proche de nous. C'est un sujet qu'il est pourtant impossible d'occulter, surtout lorsqu'on parle de larmes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, versets 32 à 38, nous pouvons lire ceci. Marie parvint à l'endroit où Jésus était. Et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Dans la version du Semeur, nous lisons que Jésus est profondément indigné. Et le mot « indigné » doit être expliqué. Jésus est profondément indigné et ému. Il n'est pas d'accord avec la mort, parce que la mort est injuste. La mort ne frappe pas que à la porte des personnes âgées ou malades. Elle peut survenir de manière tout à fait inattendue et brutale, touchant des individus de tout âge et de toutes conditions. La mort survient brusquement, toujours trop tôt, et elle nous enlève un bien-aimé, une bien-aimée. Dans la version Darby, qui est toujours plus proche du texte original, il est dit ceci. « Jésus frémit en son esprit et il se troubla. » Je reprends la lecture. « Où l'avez-vous enterré » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils. Tu verras. » Jésus pleura. Voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. En présence de la mort, les larmes montent irrésistiblement. Jésus n'est pas exempt de larmes. Il s'émeut des larmes de Marie. Il s'émeut de la mort de son ami Lazare. Pourtant, il savait qu'il allait le ressusciter. Jésus frémit, il est profondément bouleversé devant la mort de son ami Lazare. De la même manière, Jésus est profondément bouleversé par ta détresse, par tes pleurs. Jésus pleure devant les larmes de Marie qui a perdu son frère Lazare. Et il pleure aussi devant mes larmes, devant nos larmes, devant notre souffrance, devant notre détresse. L'apôtre Paul écrit aux Romains au chapitre 12, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Jusque-là, ça n'a pas l'air bien difficile, quoique parfois, c'est difficile de se réjouir du bonheur des autres, de la réussite des autres. Mais l'apôtre Paul ajoute ceci, « Pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Pleurez avec ceux qui pleurent. Ce conseil, nous ne devrions jamais l'oublier. Retenons bien cette phrase, gravons-la au plus profond de nous-mêmes. Celui qui pleure le départ d'un être bien-aimé n'a d'autre besoin que celui d'être écouté. Cette écoute patiente et aimante est déjà un apaisement. C'est du baume que vous déposez dans son cœur. Comme il est bienfaisant de pouvoir pleurer librement auprès de ceux que nous aimons et qui nous aiment en retour. À plus forte raison, combien il est bienfaisant de pouvoir pleurer auprès de notre divin consolateur. Toujours, il nous écoute. Mon frère, ma sœur, il t'écoute. Et il te dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. Évidemment, et c'est important de le souligner, La guérison ne vient pas à tous les coups, sinon nous serions immortels. Et ce n'est malheureusement pas le cas sur cette terre. Alors je termine. Le message de ce jour est pour toi qui es désespéré. Le message de ce jour est aussi pour nous qui sommes dans la joie du Seigneur. C'est un rappel. Dieu veut que nous soyons toujours à l'écoute de nos semblables, de nos frères et sœurs. Après avoir dit au jeune homme riche « Quel est le plus grand commandement ?», Jésus ajoute ceci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, verset 39. « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le message de ce jour est un message d'espoir. Parce que la Bible nous fait prendre conscience que toujours, et je dis bien toujours, notre Dieu est à l'écoute. Et il te dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. Amen. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour tous ces versets de ta parole que nous venons de lire. Nous te demandons de ne pas être des auditeurs oublieux. Merci parce que tu es toujours présent lorsque nous te prions. Merci parce que si nous n'en comprenons pas la raison, et si la réponse se fait attendre et que parfois la réponse ne vient pas, nous savons que toujours tu veilles sur nous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Père, tu sais que je t'aime et que je m'attends à